BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
McDonald's France a présenté ses excuses hier après la polémique née d'une note interne dans le restaurant du Var, note qui indiquait qu'il ne fallait pas donner à manger aux déshérités du coin, en tout cas aux SDF du coin. Une polémique qui relance évidemment un dossier bien plus sensible, celui du gaspillage alimentaire. Nous en parlons avec vous, Nicolas Chaban, vous êtes donc fondateur et dirigeant des fameux gueules cassées, ou des fameuses gueules cassées, en l'occurrence ce petit logo que vous avez peut-être vu hein, sur certains produits, une pomme avec une dent en l'occurrence, pomme un peu mal fichu, qui nous dit que ces produits sont bons à manger, ils ont toutes les qualités nutritives nécessaires et qu'ils coûtent en plus du coup 30% moins cher parce que autrement ils sont destinés à la poubelle. Et puis nous sommes également au téléphone avec Arash Derambach, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Debar, merci
surtout d'être avec nous, vous êtes surtout à l'étranger, on prend quelques minutes de votre temps de vacances, vous êtes élu les Républicains de Courbevoie et c'est vous qui avez porté à bras-le-corps, notamment via votre ville de Courbevoie, toute cette démarche pour en arriver à cette proposition de loi qui a été un peu cannibalisée par Ségolène Royal autour du gaspillage alimentaire. On va dire les choses telles qu'elles sont, hein, autour du gaspillage alimentaire. Oui. Vous avez réagi à cette polémique qui naît donc de McDonald's. On va pas revenir sur ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que peuvent faire concrètement les restaurateurs. Parce qu'ils nous disent, quand on leur pose la question, on n'a pas le choix. Nos produits sont périssables, ils sont déjà cuits. Si on voulait effectivement les donner à des associations, il faudrait, un, les refroidir, et deux, les remballer une nouvelle fois. Et ça serait, un, extrêmement cher, et deux, extrêmement compliqué. Quelles sont les solutions concrètement pour les restaurateurs ?
Monsieur Doba, c'est une question qui est originale depuis l'histoire de l'humanité. À chaque fois qu'on a demandé à l'être humain de changer ses habitudes, on a toujours eu une réaction de conservateur. On ne peut pas y arriver. Mais bien sûr que vous allez y arriver, pour une raison très simple, Monsieur Doba. C'est que 2015, c'est plus 2010.
Mais moi, je veux bien y arriver, mais expliquez-moi comment, expliquez-leur.
Mais pour y arriver, il faut d'abord expliquer pourquoi on doit le faire. C'est parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a une classe moyenne, quand même, en France, qui souffre. Le 10 du mois, je vous rappelle qu'en France, et ça, c'est une réalité sociologique, économique, parce qu'on est sur BFM Business, c'est que le 10 du mois, les Français qui vous regardent aujourd'hui, par exemple, ne peuvent plus, après avoir payé le loyer, payer soit leur mutuelle, soit leurs vêtements, soit aller chez le médecin. Bon, et en plus, on a de plus en plus de SDF. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a commencé par une première étape. C'est qu'on a demandé au supermarché de faire un effort, c'est-à-dire de céder les 40 kilos de nourriture qui sont jetés tous les soirs à la poubelle, de les donner à l'association de leur choix. C'est ce que nous avons fait via une pétition monté avec Mathieu Kassovitz. On a eu le soutien notamment de mon ami Nicolas Chaban qui est avec vous ce soir également. Mmh. Et on a obtenu une loi en 4 mois. La prochaine étape, et c'est évidemment dans notre viseur, c'était les restaurateurs, les boulangers par exemple, la cantine scolaire, c'est qu'ils fassent un effort. Alors évidemment, l'actualité nous donne raison, puisqu'en fait, ça c'est un quotidien. McDonald's, mais Quick également, et puis évidemment très bientôt, en ce moment, Burger King, jette de la nourriture qui est consommable. Parce qu'on parle de nourriture consommable, pour que vos éditeurs et vos téléspectateurs comprennent, on ne parle pas de nourriture qui est périmée ou qui doit être jetée à la poubelle.
Mais bon. Moi, quand McDo me dit, écoutez, moi, vous êtes bien gentil, mais mon steak, il est valable 10 minutes et après, il n'est plus consommable. Qu'est-ce qu'on en fait de ce steak qui va peut-être rester une demi-journée ou une journée entière dans un restaurant ?
D'abord, il y a un premier point. Le soir, avant de fermer, le restaurant jette de la nourriture qui est consommable. Le McDonald's, mais également les autres fast-foods. Et ça, c'est du concret, parce que moi, je l'ai fait, figurez-vous. Mais simplement, on l'a refusé également, je vous le dis. 10 fois, j'ai vu des SDF devant le McDonald's, par exemple, de Neuilly-sur-Seine, au Sablon, ou d'ailleurs. Et systématiquement, on avait voulu chercher, parce que j'ai vu un monsieur qui, devant, avec ses enfants, avait faim. Et on m'a refusé de donner des hamburgers qui allaient être jetés. Donc, je les ai achetés, je leur ai donné. Donc, je leur ai proposé, je leur ai dit, faites un système simple. Prenez une case à côté, vous prenez un hamburger, vous demandez aux gens de venir et les récupérer. C'est très simple. Ou alors, utilisez le système du doggy bag. C'est-à-dire que vous les mettez dans un sac et que les gens viennent les récupérer, mais le soir, avant la fermeture. C'est quelque chose qui est très simple. On ne peut pas le faire parce que ce n'est pas une habitude. Mais vous allez aux États-Unis, ça n'existe pas, ça, Monsieur Doba. À Los Angeles, où je suis allé, eh ben, figurez-vous qu'au McDonald's ou dans beaucoup de fast-food, les sans domicile physique, ce qu'on appelle les homeless, viennent récupérer ces invendus auprès des restaurateurs.
Nicolas Chaban, la solution pour les restaurants, les restaurants globalement, c'est 15% du gaspillage alimentaire, c'est vient de la restauration. La solution, elle serait là, elle serait dans les doggy bags.
Oui, c'est une très belle solution qui marche, parce que on le voit, et Arash Darambarche le dit bien, quand une habitude évolue, le doggy bag qui consiste à se décomplexer de l'idée que ce qu'on a laissé va être jeté, on le ramène chez soi et on le consomme un peu plus tard. Finalement, là, la notion de chaîne du froid, elle est neutralisée par la responsabilité directe de celui qui accomplit ce geste simple. Ça n'existait pas. Il y a quelques années. C'est en train de se développer, de devenir une habitude. Donc il y a un grand espoir. Je suis d'accord avec Arash sur ce point. Il faut que les mentalités évoluent. Mais naturellement, si McDonald's, qui est une structure importante, prend, je dirais, les devants et s'organise pour que ce soit un peu différent, on pourra faire évoluer les mentalités et il y aura bien moins de nourriture jetée.
Arash Darambarche, certaines associations, c'est ce que j'ai pu lire également cet après-midi en préparant l'émission, certaines associations affirment que récupérer auprès des restaurateurs des denrées périssables est trop coûteux.
Non mais, monsieur Debat, on va essayer d'utiliser de l'énergie positive. Parce qu'il y a toujours des gens, depuis la nuit des temps, qui vont vous dire que c'est pas possible. Et puis, même pour l'abolition de la peine de mort ou pour d'autres grandes résolutions, on a toujours eu des récalcitrants. Allons vers l'énergie positive. Vous savez, nous, sur l'initiative que nous avons prise, et où nous avons fait plier la grande distribution en 4 mois, on a eu, excusez-moi du peu, le soutien de la Croix-Rouge française, on a eu le soutien d'Action contre la faim, et on a eu le soutien de One France, fondé par Bono. On ne s'occupe pas de ceux qui disent que c'est pas possible. On va s'occuper uniquement de ceux qui disent que c'est possible, on va trouver des solutions. Ce qui est possible, et on va le demander, on lance un appel. C'est ce que j'ai dit hier à l'AFP et à RTL et au Monde. Je leur ai demandé, j'ai dit voilà, au président de McDo France, qui est un homme raisin, Monsieur Petit, en l'occurrence là, ce qui se passe, le McDo de hier, par exemple, c'est une franchisée, donc ça ne dépend même pas du siège social. C'est une décision, en fait, qui est tout à fait isolée. Mais, comme pour la grande distribution où il y a évidemment des franchises, on va demander à ce que tout le monde se conforme à la loi. Si la grande distribution, les restaurateurs ne veulent pas jouer le jeu de l'éthique et de la morale, parce que lorsque vous jetez de la nourriture consommable, en parallèle de ça, vous avez des gens qui ont faim dans notre pays, il ne faut pas l'oublier, eh bien, on ne respecte plus le pacte républicain. Eh bien, dans ce cas, on va passer par la loi, monsieur Dobard. Si c'est comme ça qu'il va falloir passer, on va passer par la loi. On va demander un quota.
Le gaspillage alimentaire, c'est évidemment ce que l'on jette, alors à proprement parler, et dans les supermarchés et dans les restaurants, mais ça n'est pas que ça. Le gaspillage alimentaire, on le trouve également, dites-moi si je me trompe, hein, mais lors du stockage des produits ou encore lors de la transformation des produits.
Alors, Nicolas Chavannes pourra très bien vous répondre, parce que lui, la méthode qu'il a utilisée avec les légumes et les fruits moches, où il les a récupérés, est une des vraies solutions. Donc ce qu'il a fait est un concept qui est très original et qu'il exporte, figurez-vous, dans plus de 20 pays dans le monde aujourd'hui. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à la France, c'est que ces restaurateurs-là, on ne va pas chercher des usines à gaz, monsieur Dobin. Hein. On va leur dire simplement, voilà, vous avez de la nourriture avant la fermeture de votre restaurant, au lieu de les jeter, et au lieu d'interdire surtout à des salariés, parce que comme je l'ai vu là hier, on demande à un salarié de ne pas donner à quelqu'un qui a faim, mais en plus, on le menace de licenciement. Mais alors, c'est vraiment la double peine scandaleuse. Ça me rappelle ce qui s'est passé à Montpellier, figurez-vous, il y a quelques mois, lorsque 3 jeunes sont allés récupérer des invendus consommables dans les poubelles de Intermarché. Figurez-vous, ils ont été traduits dans le tribunal correctionnel. Donc, ces doubles peines, ça suffit en France. Il faut maintenant réglementer. Si vraiment la grande distribution et les restaurateurs ne veulent pas jouer le jeu de la morale, on va passer par la réglementation et l'encadrement légal. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie en gros que lorsque, par exemple, un restaurateur aura jeté ce genre d'aliments consommables, eh ben, on va les sanctionner sévèrement. Ça, on va leur donner des idées, mais c'est aussi aux restaurateurs aussi. Ils ont tous les outils pour faire une application de la morale et de la fraternité dans ce pays.
Nicolas Chavannes, on va revenir sur votre logo, donc celui des gueules cassées, parce qu'on le disait, il y a effectivement du gâchis alimentaire, il y a ce que l'on jette, mais il y a également ce que l'on jetait au cours de la transformation, au cours du stockage. Vous avez eu l'idée donc de créer ce fameux logo des gueules cassées. En clair, voilà, ce sont des fraises qui sont pas spécialement jolies, des carottes qui sont mal fichues ou des pommes de terre un peu abîmées, mais qui sont bons, qui ont toutes les aliments, ont toutes les qualités nutritives suffisantes et qui sont donc vendus moins cher. Votre logo a été, enfin votre démarche a été faite quasiment sensiblement en même temps que celle d'Intermarché avec les fruits et les légumes moches. Est-ce que, mine de rien, Intermarché n'a pas un petit peu, et sans mauvais jeu de mots, cannibalisé votre démarche?
Alors non, au contraire. Je dirais que cette enseigne Intermarché, qui a mis des moyens publicitaires, a plutôt évangélisé, c'est-à-dire qu'elle a sensibilisé, les publicités étaient plutôt bien faites, Et naturellement, les deux démarches, je pense pas qu'il y ait de concurrence sur des thèmes comme le gaspillage alimentaire, se sont complétées et finalement ont permis de sensibiliser le plus grand nombre. Et on est allé un peu plus loin qu'eux, puisqu'on a débordé du cadre du fruits et légumes. Mmh. Mais l'essentiel, c'est de rappeler ce que vous dites. C'est-à-dire que il y a une proportion incroyable des millions de tonnes de produits qui, pour des petits défauts mineurs, on parle sur une pomme d'une petite tache de boisage, c'est-à-dire une branche qui aurait marqué l'épiderme.
Oui, ou une cerise qui n'est pas au bon diamètre, en fait. Donc,
voilà, c'est-à-dire
3 cm de moins, elle n'est pas vendable.
Quand on va chez sa grand-mère dans son verger, on ramasse ce qui est mûr, on n'a pas de pied à coulisse pour le faire. Et puis, quand on est dans le supermarché, on a des yeux qui changent étonnamment. Et là, on a des millimètres qui nous empêcheraient d'acheter des produits. Le bon sens, c'est réemparer, et ça c'est un grand espoir même du sujet précédent, le bon sens c'est en train de se réemparer de tout le monde. Alors on va arrêter de jeter ce qui représente en France 10 stades de France remplis à ras-bord uniquement de bons produits parfaitement consommables. C'est-à-dire que en crise, alors qu'on a du mal à finir tous nos fins de mois, on doit s'occuper de ce capital collectif que nous avons, des produits qui existent, qui en plus ont un coût carbone, qui sont produits donc financés, parce que quand on les écarte, le prix revient dans celui qu'on consomme. C'est un bien commun. C'est comme ça qu'on peut transformer le gaspillage alimentaire, qui est un drame, en une chance collective.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des marques, des supermarchés qui refusent de jouer le jeu ?
Alors, je dirais que personne ne nous a opposé, face à une idée aussi évidente, un refus catégorique. En revanche, il y a une inertie. Ce sont des structures qui, depuis des années, ont pris des habitudes. Et même si individuellement, on rencontre des gens de bonne volonté, il faut un peu plus de temps chez certains. On a quelques enseignes comme Leclerc, Carrefour, Monoprix, Franprix, qui ont fait une place à cette démarche. Carrefour est allé même au-delà, a ouvert l'ensemble de ses rayons, l'ensemble de ses hyper, a fait une place au camembert moche. Donc on voit que les choses évoluent et les consommateurs sont les premiers moteurs. C'est-à-dire que plus ils vont pousser, plus on pourra faire une place à ces produits qui ne méritent pas d'être jetés.
Arash Duranbash, Nicolas Chaban évoquait une sorte d'inertie de la part de grands acteurs. Est-ce que vous la sentez, vous également, cette inertie dans votre combat quotidien ?
Moi, c'était une inertie, mais j'ai eu également beaucoup d'opposition, Monsieur Dobat, parce que en étant vraiment très concret, j'ai été élu il y a un an et demi au conseil municipal de Courbevoie. La première initiative que j'ai voulu faire, c'est faire un partenariat entre les enseignes et les associations. Pour une raison très simple, Monsieur Dobat, c'est parce que je n'avais pas en fait d'infrastructure de local, de logistique pour stocker la nourriture, pour respecter la fameuse chaîne de froid. Donc j'ai fait une astuce, j'ai contourné la chaîne de froid, figurez-vous, pour faire une distribution immédiate, parce que des grands nutritionnistes et des grands médecins m'ont dit que la nourriture pouvait sortir du froid et être consommable dans les 4-5 heures. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé demander d'abord à Monoprix et à Franprix qui m'ont refusé un partenariat. Je suis allé voir Carrefour Market au centre commercial de Charras, dans ma ville. Ils m'ont autorisé 3 fois par semaine en décembre et en janvier à faire une distribution. Donc je venais en fait, le magasin fermait à 9h, je venais à 8h30, donc avant la fermeture avec mes bénévoles, et on récupérait donc les invendus, on les donnait spontanément à la classe moyenne, puis dans un deuxième temps on faisait des maraudes. Qu'est-ce que ça représentait exactement ? On récupérait à peu près 40 kilos, 50 kilos de nourriture. Ça représente 500 euros. Et avec ça, on renourrissait chaque soir 100 personnes. Cela signifie une chose très simple. Cela signifie que si on généralisait ce système, on allait favoriser la lutte contre la faim et la soif dans notre pays. C'est pour ça qu'on en a fait une loi. Donc on a monté une pétition le 19 janvier avec Mathieu Kassovitz, et on a reçu énormément de soutien. Ça a été voté le 21 janvier dernier. Et puis derrière, évidemment, j'ai remonté une autre pétition de nouveau dans le cadre de l'Union européenne. Sur le fondement du traité de Lisbonne, ce qu'on appelle l'initiative citoyenne européenne. Il faut 1 million de signatures pour obtenir une directive européenne. Donc là, on est à plus de 600 000 signatures. Le rapport qui est passé là le 9 juillet dernier, qui a été voté grâce à un amendement d'Angélique Delahaye, députée européenne, a été voté de façon historique au Parlement européen. J'attends maintenant que Jean-Claude Juncker puisse valider cet amendement pour que cette loi qui a été votée en France puisse être aussi appliquée dans l'Union européenne. Donc je lance un appel à travers BFM Business au président de la République, François Hollande. On a lancé un appel pour qu'il puisse nous recevoir à l'Élysée et qu'il puisse surtout nous soutenir, nous aider pour faire appliquer cette loi dans le cadre de l'Union européenne. Je rappelle juste qu'il y a 100 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et ça peut être une bombe à retardement. Parce que quand les gens ont faim, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas réviser. Et à moyen ou long terme, c'est la guerre.
L'appel est lancé. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Arash Derambash, d'avoir été avec nous. Élu donc les Républicains de Courbevoie. Nicolas Chaban, vous le disiez, à la base, donc tout cela est parti des fruits et légumes. Aujourd'hui, vous ouvrez encore un petit peu plus ces produits, donc des gueules cassées, comme on dit. Vous les ouvrez à quoi ? Est-ce que on parlait par exemple des produits frais tout à l'heure ? Est-ce qu'on peut imaginer alors des yaourts mal foutus ? Il y en a pas. A priori, ils sont même pas mis en rayon. Mais en revanche, il y a les fameuses DLC, date limite de consommation. On sait très bien qu'un yaourt est consommable après. Est-ce qu'on peut imaginer retrouver votre logo sur une DLC extrêmement courte, par exemple?
Voilà, alors c'est ce qu'on a fait, à la demande, là, de la distribution. C'est intéressant parce
c'est
que
la distribution qui vous a demandé de le faire.
Voilà, ils ont des étiquettes mais fluo, oui. qui sont pas très sexy et pas très inspirantes. Donc on a, à partir de notre petit logo qui plaît, qui dédramatise, qui est cette pomme avec tous ses défauts mais sa seule dent et à la fois un très large sourire qui l'emporte sur les défauts, on a fait une petite étiquette qui dit moins 50%, stop au gaspillage, voilà, je vous la présente, elle est ici. Eh bien, cette petite étiquette, en 4 mois, a ramené le taux de casse, donc les pertes, à 0 dans les magasins, parce que le consommateur qui s'associe à la lutte anti-gaspillage ne voit plus le produit comme quelque chose de presque périmé, mais le voit comme une opportunité d'un achat moins cher, et comprend que le produit est aussi bon. Donc vous voyez, c'est ce changement de vision qui peut tout changer.
Voilà. Vous parlez du consommateur, est-ce que vous savez qui est le consommateur des gueules cassées ? Est-ce qu'il y a un portrait type du consommateur des gueules cassées ? On a envie de se dire, évidemment, ce sont les plus défavorisés, mais j'ai envie de croire que non, en fait.
C'est une très bonne question, puisque un des partenaires, Monoprix, pour ne pas le citer, a fait une étude face au succès de la démarche là, depuis un an, pour essayer de comprendre qui achetait. Évidemment, les gens qui ont le souci de faire des économies sont très heureux parce que c'est 30 à 50% moins cher. Mais on s'est rendu compte que c'est toutes les classes de la population parce que l'idée du gaspillage, c'est-à-dire l'idée qu'on travaille, qu'on pollue autant pour produire de la nourriture à l'échelle mondiale, vous l'avez rappelé, c'est 40% de la nourriture produite qui n'est pas consommée. Cette idée-là est insupportable à tout le monde. Donc on a l'occasion de se rassembler tous autour de ce capital commun, et vous avez raison, c'est l'ensemble de la population qui achète ces produits, parce que ça a du sens de les acheter.
Juste, alors oublions quelques instants les produits frais, prenons des produits d'un peu plus grande consommation, de la charcuterie par exemple, ou de la confiserie. Vous sélectionnez, et comment est-ce que vous sélectionnez les marques avec lesquelles vous allez travailler désormais ?
Alors, on a une chance depuis le début, c'est qu'on a énormément d'appels entrants, c'est-à-dire ce sont les gens qui nous appellent. C'est comme ça qu'on s'est... finalement, on est allé sur les camemberts, les céréales. On n'avait pas du tout l'idée au départ. Mais les industriels et les fabricants nous ont dit, on a des gueules cassées. On a une part de produits en dehors du cahier des charges, parfaitement bon, qui n'est pas vendu. Et c'est comme ça que des camemberts avec des tout petits défauts ou des céréales faisant 1 millimètre de plus ou de moins ont retrouvé le chemin des rayons, ont été vendus moins cher, finalement dans un rapport gagnant-gagnant.
On sort un peu du gaspillage alimentaire, mais est-ce que ces gueules cassées peuvent un jour se retrouver, je ne sais pas, sur des vêtements également où il y a du gaspillage, sur des chaussures où il y a aussi du gaspillage ?
Notre démarche, c'est pas prévu aujourd'hui d'aller au-delà, mais vous avez raison, le gaspillage, c'est une idée bien plus globale que le gaspillage alimentaire. Il y a un patron de l'ensemble du système, et vous serez d'accord avec moi, c'est le consommateur. Les mentalités évoluent, les réseaux sociaux permettent des échanges très rapides. On le voit, avant, un dentiste tueur de lions aurait gardé son cabinet, maintenant c'est plus possible. Donc cette force, finalement, de l'ensemble des gens autour de causes collectives comme celle-là vont permettre d'aller au-delà de l'alimentaire. On est face à la naissance d'un nouveau segment. Dans quelques années, on se demandera pourquoi on jetait la céréale plus petite ou la pomme un peu moins ronde. J'en suis persuadé.
Merci beaucoup Nicolas Chaban d'avoir été l'invité de BFM Business ce soir. Invité du Grand Journal, donc fondateur et dirigeant des Gueules Cassées. Merci encore. Vous restez avec nous sur BFM Business. On marque une petite pause et puis juste après, on s'intéresse à un problème également d'actualité, bien évidemment. Problème de la crise porcine. On en parlera avec Paul Offray, le président de la Fédération Nationale Porcine. C'est à suivre.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le Grand Journal, David Doba.
Le Grand Journal ce soir qui s'intéresse donc à cette crise porcine en compagnie de Paul Offray, président de la Fédération Nationale Porcine. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. La crise se poursuit donc. Il n'y a pas eu de cotation aujourd'hui sur le marché breton du porc. Faute d'acheteurs, notamment donc parmi les deux principaux acheteurs, hein, Bigard qui affirme qu'il achètera autant de porc que d'habitude cette semaine au prix revalorisé demandé par les éleveurs, mais ailleurs que sur le marché du cadran de Plérin. Qu'est-ce que ça signifie concrètement cette déclaration ?
Bah écoutez, un peu ambigu, je trouve. Très honnêtement, depuis lundi, les choses n'ont pas évolué. Les positions n'ont pas du tout bougé, ni d'un côté ni de l'autre. Le gouvernement n'a pas bougé non plus par rapport aux doléances qu'on lui a formulées. Et donc aujourd'hui, les déclarations des deux belligérants qui ont en quelque sorte pris les éleveurs en otage depuis vendredi, restent sur leur position, avec une situation qui finalement aboutit à une prise d'otage des éleveurs, notamment de ceux qui livrent leur porc par le marché au cadran. Et donc c'est une situation qui risque de s'empirer et qui devrait voir la semaine prochaine des éleveurs embourbés avec leur porc dans leur porcherie sans pouvoir les vendre. Donc ça c'est quelque chose d'inédit et puis qui risque de provoquer une situation très très instable.
Mais par quels moyens les deux principaux acheteurs, que sont donc encore une fois Coperle et Bigard, peuvent acheter au prix revalorisé donc la viande? Comment ils font? En gros, ils ouvrent les portes des abattoirs et ils disent aux éleveurs, venez nous les vendre directement, c'est ça?
Écoutez, historiquement, le marché au cadran breton permet de commercialiser environ 17 à 18% des ports de l'ouest de la France. Hein. Les autres sont commercialisés directement par les coopératives auprès des abattoirs, en prenant pour référence le prix du marché au cadran. Donc en gros, ce sont 17 à 18% des ports français qui permettent de fixer un prix toutes les semaines. Donc voilà, donc il y en a qui sont vendus par le cadran par le biais d'un certain nombre d'enchères au cadran, et les autres sont vendus directement aux abattoirs sans aucune espèce de discussion, mais sur la base de ces prix. Donc voilà un petit peu quel est le mode de fonctionnement du commerce porcin en France. Bigard aujourd'hui a engagé un bras de fer avec la profession en refusant de venir au cadran pour la bonne et simple raison qu'il dit que les porcs sont trop chers. Donc aujourd'hui, quand il dit je vais acheter les porcs par un autre biais au même prix, je trouve quand même que ça fait preuve de beaucoup d'ambiguïté, voire de cynisme.
Parce que aujourd'hui au cadran, donc le prix du porc est effectivement à 1,40€.
Exactement. Donc on a, suite à nos actions syndicales depuis le début de l'année, à nos diverses rencontres avec les distributeurs français, on a réussi en quelque sorte à faire entendre un peu nos doléances et surtout à atteindre l'objectif du prix de revient qui est aujourd'hui d'environ 1,40€. Donc c'est un minimum pour qu'on puisse vivre décemment de notre métier. Par contre, il en manque encore beaucoup pour pouvoir combler les déficits que nous avons accumulé depuis des mois, voire des années.
Au cours de vos discussions, qu'en est-il ressorti des discussions avec Bigard et la Coperle notamment? À combien, eux, sont-ils prêts à acheter le porc au kilo?
Il n'y a pas de dialogue avec Bigard et Coperle aujourd'hui. Bigard et Coperle ont décidé de façon brutale un arrêt des achats au cadran. On a été prévenu par courrier ou par lettre recommandée. On n'a pas eu depuis d'échanges avec eux. Aucun échange.
Que représentent ces deux géants de l'agroalimentaire dans les ventes quotidiennes de porc en France? Parce qu'on a l'impression, vu de cette crise, hein, que ce sont deux acheteurs qui font la pluie et le beau temps.
Aujourd'hui, Bigard et Coperle représentent quasiment la moitié de la production porcine nationale. Presque. Pas tout à fait, mais presque. 40 à 45%. Il y a d'autres opérateurs en France, notamment, fait nouveau, il y a des opérateurs, des industriels, distributeurs qui ont aujourd'hui des abattoirs en leur possession. Donc c'est le groupe Kermanet qui appartient au groupe Leclerc, et vous avez le groupe Intermarché qui a deux abattoirs, notamment après la reprise de l'abattoir GAD il y a un peu plus d'un an, voire un an tout juste. Mmh. Donc aujourd'hui, on peut pas dire que Bigard et Coperle font la pluie et le beau temps. Le prix du porc en France est corrélé au prix européen depuis très très longtemps. Ensuite, les ajustements se font au marché à Plérin en fonction de l'offre et de la demande sur le territoire national, en fonction de l'agressif, en fonction des importations, notamment espagnoles, et surtout en fonction de notre capacité à exporter pays tiers. Donc le prix est fait en fonction de tous ces ingrédients. Voilà, donc bon, on ne peut pas dire honnêtement que Bigard et Copernle font la pluie le beau temps. Par contre, par leur comportement de vendredi dernier, c'est une tentative de leur part de vouloir confisquer en quelque sorte la cotation pour la maîtriser de façon pleine et entière et de faire en sorte que le prix d'achat leur convienne à eux sans forcément correspondre aux besoins des producteurs.
Comment expliquez-vous que ce soir il n'y ait pas d'appel national à une mobilisation, notamment de la part de la FNSEA?
Bah écoutez, depuis lundi, on a surtout laissé la place aux négociations et surtout avec l'espoir de voir revenir les industriels à de meilleures dispositions.
Mais on a vu des premières manifestations dès aujourd'hui.
Oui, oui, mais les manifestations, il y en a eu surtout dans d'autres départements et même de sections qui représentent d'autres productions. Donc pour ce qui concerne la production porcine, on n'est pas encore aujourd'hui en situation d'appeler à des mouvements de grande ampleur, d'autant plus qu'en France, si vous pouvez vous en rendre compte, il reste pas beaucoup d'éleveurs, il reste 6 à 7 000 éleveurs indépendants.
Mais justement, vous ne seriez pas mieux soutenu par un mouvement comme la FNSEA qui donne l'impression de vous lâcher un petit peu?
Non. Je suis moi-même président de la section porcine de la FNSEA, donc on peut pas dire ça. On travaille en bonne intelligence avec notre structure nationale. Je vous dis une fois de plus qu'on a essayé depuis lundi de laisser la place aux négociations pour sortir de cette situation qui est, à mon avis, intenable à court terme. Simplement, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le marché au cadran a été reporté à demain. Mais je suis pas sûr que demain, on puisse avoir de nouvelles avancées. Et je peux déjà vous dire que les sections départementales sont en route pour exprimer leur mécontentement ce soir et demain. Voilà. Donc, notamment après les déclarations du ministre de France cet après-midi, et surtout après le statu quo entretenu par les deux industriels.
Ce sera ma dernière question, monsieur Auffray, vous nous le rappeliez, il reste 6 à 7 000 éleveurs de porc, donc aujourd'hui sur le territoire français. Selon certains experts, il y aura forcément des centralisations parce que les productions sont trop peu nombreuses, en tout cas ne sont pas assez imposantes. Est-ce que vous en êtes conscient aujourd'hui? Est-ce que c'est une réalité vers laquelle on s'oriente?
Les éleveurs français ont des tailles d'atelier qui sont aujourd'hui inférieures à leurs homologues européens. Pour autant, les éleveurs français sont plutôt très performants. Le problème aujourd'hui, c'est le manque de compétitivité de l'industrie agroalimentaire française et notamment des coûts salariaux en France. J'ai comme l'impression que le gouvernement ne veut pas entendre ça. Et je pense que sans une réponse concrète sur les coûts salariaux et sur la baisse des charges, on ne pourra pas entrevoir de progrès, notamment sur l'évolution de la mise en marché et éventuellement de propositions en matière de régime contractuel ou autre. Et dernier point, je voudrais aussi rappeler aux auditeurs qu'il y a quand même un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'attitude à la fois de la restauration collective française et des industriels de la Salaison, qui aujourd'hui s'approvisionne largement à partir de viande espagnole. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où on considère aujourd'hui que l'État français est quasiment le premier importateur de viande étrangère, croyez-en bien que nous allons mettre la pression à la fois sur les collectivités territoriales et sur les industriels pour qu'ils reviennent aux achats français.
Eh bien, c'est un mouvement qu'on suivra. Merci beaucoup, monsieur Auffray, d'avoir été avec nous. Paul Auffray, donc, le président de la Fédération nationale porcine. Vous restez avec nous. Le Grand Journal se poursuit dans un instant avec, vous le verrez, un tout autre sujet. À tout de suite.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le Grand Journal, David Doba.
Et c'est Leonidas Kalogiropoulos qui est avec nous pour les 10 dernières minutes de ce Grand Journal. Bonsoir.
Bonsoir. bonsoir.
Merci d'être avec nous, fidèle évidemment de BFM Business, le vice-président d'Éthique, le mouvement patronal, et président du cabinet Médiation et Arguments. Nous avons voulu vous avoir parce que ce matin, avec un brin évidemment de provocation, vous avez publié dans le Figaro une tribune dans laquelle vous déclariez avoir trouvé comment sauver la France, et en l'occurrence tout cela allait passer par l'esprit d'entreprise. Qu'est-ce qui vous fait croire que l'esprit d'entreprise aujourd'hui est de nature, comme vous le dites, à sauver la France?
C'est un mouvement qui est très profond, je pense, dans notre pays, auquel on assiste. Et vous savez d'ailleurs que lorsque un mouvement naît du pays, c'est beaucoup plus prometteur que quand il vient des élites. L'homme providentiel, je ne sais pas si on l'aura, mais je trouve que l'on commence à avoir une accumulation de signes très prometteurs sur des citoyens providentiels, ce qui est beaucoup plus prometteur, parce que on a une conjonction de facteurs autour de la création d'entreprises, une année record, plus de 125 000 jeunes ont créé leur entreprise cette année, tout ce qui est donné comme stimuli, les Français s'en emparent, des auto-entrepreneurs au statut des étudiants entrepreneurs, et tous les statuts qui ouvrent à l'initiative sont des statuts qui sont extrêmement utilisés par les Français. On a également quelque chose qui est nouveau, qui est formidable. Plus de 50% des Français, des jeunes Français qui veulent devenir entrepreneurs, alors que vous comme moi, nous nous en souvenions, il y a pas si longtemps que cela, on se désespérait un peu de voir 80% des jeunes Français vouloir devenir fonctionnaires. C'est donc un changement très profond dans notre pays, et ce changement est de nature à pouvoir entraîner nos hommes politiques, de gauche comme de droite, à pouvoir réaliser des réformes qui ont du mal à être réalisées depuis des années, mais pour lesquelles, à l'évidence, le pays est de plus en plus prêt. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve que ce mouvement pro-entrepreneurial, il dépasse totalement les clivages politiques traditionnels. On voit des gens de droite, de gauche se mettre à l'entrepreneuriat et créer, prendre une idée, la mener jusqu'au bout. Et d'ailleurs, quand on fait un sondage auprès des Français pour savoir s'ils pensent que l'esprit d'entreprise est une valeur positive, on a des scores qui dépassent très largement ce que l'on pourrait avoir si on posait la question autour du libéralisme, par exemple, puisque 86% des Français pensent que l'esprit d'entreprise est une valeur positive qu'il faut encourager.
Mais alors, vous avez dit beaucoup de choses, mais je vous coupe. Mais juste vous rappeler ce chiffre de 125 000 jeunes qui sont prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que l'on connaît la part de jeunes qui se sont lancés dans l'auto-entrepreneuriat, et on sait que dans l'auto-entrepreneuriat, il y a évidemment à boire et à manger là-dedans. Il y en a un certain nombre, et dont important même, hein, qui ne déclarent quasiment rien trimestre après trimestre. Est-ce que l'on sait le nombre de jeunes qui franchissent le pas de l'auto-entrepreneuriat à l'entrepreneuriat réellement à proprement parler?
En l'occurrence, si on prenait ce chiffre de 125 000 entreprises créées par des jeunes cette année, c'est le chiffre de création d'entreprises et non pas d'auto-entrepreneurs. Si on y ajoute les auto-entrepreneurs, on arrive à 500 000. Donc on est véritablement dans un mouvement de fond, et vous savez, si on accumule ainsi un certain nombre de facteurs, le crowdfunding qui mobilise de plus en plus de Français, le fait que des salons des entrepreneurs n'arrivent plus à trouver des halles suffisamment grandes pour accueillir tout le monde, et d'ailleurs chaque grande ville veut le sien, il y en a un qui va s'ouvrir à Marseille cette année, et il y a ce chiffre autour de plus de 50% des jeunes qui veulent devenir entrepreneurs, c'est un mouvement de fond, et c'est un mouvement d'ailleurs que je me suis permis de requalifier d'entrepreneurialisme, parce que le libéralisme ne le résume pas à lui tout seul. Le libéralisme, c'est une doctrine qui est plutôt une doctrine du laisser-faire, laisser-aller, et pourtant il y a plein d'entraves à l'esprit d'entreprise, ou en tous les cas des entreprises qui, dans leur comportement, ne répondent pas à cette volonté des Français de voir une idée aller jusqu'au bout, une nouvelle invention, une création. Mmh. Je pense à des actions spéculatives, je pense aux relations, vous en parliez tout à l'heure, entre donneurs d'ordre et sous-traitants qui poussent certains entrepreneurs à l'esclavage économique et qui est très éloigné de l'idéal entrepreneurial que nous pouvons avoir. Je pense également par moments à des comportements d'entreprises qui, avec des positions dominantes, empêche au contraire de jeunes entrepreneurs d'arriver sur le marché. Donc ce n'est pas que tout ce qui vient des entreprises est positif, mais c'est bien pour cela que par moment il faut réguler les entreprises qui sont dominantes, ou un Uber.
Vous appelez d'ailleurs à de la régulation et de la libéralisation. Comment est-ce que les deux peuvent cohabiter et marcher ensemble ?
Eh bien, les deux sont complémentaires. Au lieu de les opposer l'un à l'autre, comme on le fait depuis des années, entretenant des apparences de clivage totalement éculées, la libéralisation ou la régulation de l'économie sont les deux instruments complémentaires et non pas antagonistes, complémentaires pour aider, au contraire, l'éclosion de l'innovation entrepreneuriale. Il y a des circonstances, moi j'accompagne depuis des années des entreprises, des jeunes entreprises qui sont nouvelles sur des marchés et pour lesquels il faut faire sauter des verrous anticoncurrentiels. C'est notamment ce qu'a fait la loi Macron. Et de ce point de vue-là, il y a à réguler des acteurs dominants. Et puis, vous avez un certain nombre de cadres qui sont totalement étouffants pour l'esprit d'entreprise des Français. Notre code du travail, le statut de la fonction publique, le code général des impôts, un certain nombre de choses qui sont vraiment des verrous qu'il faut desserrer. Et là, il faut libéraliser. Mais dans les deux cas, que ce soit en libéralisant ou en régulant, l'idéal que l'on poursuit est toujours le même, c'est que celui qui est le plus entreprenant, celui qui a un projet à développer, une innovation à apporter sur le marché, qui puisse aller au bout de son rêve. Et derrière, d'ailleurs, il n'y a pas que de l'économie. Parce que il y a aussi une nouvelle forme de citoyenneté derrière cette ambition entrepreneuriale. L'idée que, finalement, la citoyenneté, vous voyez bien avec des jeunes entrepreneurs qui viennent souvent, d'ailleurs, sur vos antennes, dire leur fierté à avoir été au bout de leur rêve, au bout de leur projet. Mmh. Eh bien, il s'agit en quelque sorte d'être fier d'avoir apporté des emplois, d'en avoir créé, d'avoir créé de la richesse. Et si on arrive à donner une nouvelle alchimie entre la citoyenneté, le mérite républicain et cet esprit entrepreneurial, oui, je le redis, et c'était pas par un vrai de provocation, mais c'est une conviction profonde, je pense que nous avons là une valeur qui est fondamentalement ancré depuis quelques mois, quelques années dans le tissu français, qui est capable de sauver notre pays de tous ces archaïsmes.
Voilà, donc ce plaidoyer pour l'esprit entrepreneurial de Leonidas Kalogeropoulos ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, vice-président du mouvement éthique et également président du cabinet Médiation et Arguments. C'est la fin de ce grand journal. On se retrouve évidemment demain à partir de 12h30 pour l'invité de BFM Business à suivre dans quelques instants. La librairie de l'écho présentée par Emmanuel Le Chip. Passez une excellente soirée. À demain.